Alors, bonjour à tout le monde. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous dire merci. Alors, certains diront « Enfin !» Auquel je dirais « Tout vient à point, hein, qui sait attendre hein ?» Et d'autres diront « Mais pourquoi, François, tu nous dis merci ?» Eh bien, tout simplement parce que vous m'avez préparé le chemin. Hein. Que ce soit dès le début de la présidence ou au travers vos prières, au travers les chants, les thèmes abordés, vous avez fait en sorte que le partage que nous allons avoir ce matin ne vienne pas, je dirais, comme un cheveu sur la soupe, mais que se place vraiment dans la continuité de ce que Dieu avait mis dans vos cœurs. Voilà pourquoi le merci. Alors, voilà quelques dimanches déjà que nous sommes, je dirais, sortis un petit peu du thème général de notre année qui est « Qui est Dieu pour toi ?» Alors, dimanche dernier, nous avons eu le plaisir d'écouter Éric Baumann hein, nous parler des œuvres de portes ouvertes et également du grand besoin de solidarité dans la famille de Dieu. Et il y a 15 jours, c'était Guy qui avait traité comme sujet la nécessité impérieuse de construire une arche pour notre famille dans un monde hostile. Et c'est en fait Bob Souza, hein, qu'il y a 3 semaines, qui avait parlé en dernier donc de notre sujet qui est Dieu pour toi, en évoquant entre autres Dieu comme Père. Alors pour aujourd'hui, dans Qui est Dieu pour toi ? Nous allons évoquer, par le biais du psaume 104, hein, Dieu comme créateur d'œuvres nombreuses et en même temps réfléchir en quoi cela nous concerne. Yves, dans son introduction, a déjà d'ailleurs lancé quelques pistes sur ce sujet. Alors, à propos de Jean d'Ormesson, qui est un écrivain membre de l'Académie française, un éditorialiste, Jacques Julliard, fait cette citation, donc à propos de Jean d'Ormesson, je cite. Jean d'Ormesson, qui a beaucoup de peine à croire en Dieu, mais qui, rendons-lui cette justice, ne s'est jamais découragé, démontre livre après livre, c'est-à-dire année après année, qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un soit présent pour dialoguer avec lui et pour s'en faire un compagnon de tous les instants. Dans la maisonnette que nous a laissé nos parents, quand vous entrez, vous pouvez lire sur un cadre qu'a déposé ma mère, cette inscription, « Christ est le chef de cette maison, hôte invisible, présent à chaque repas, auditeur silencieux de chaque conversation. » Alors l'homme naturel lie souvent sa croyance au fait de voir. Et pourtant, est-ce vraiment le cas? Croit-il systématiquement en voyant? Mais Dieu est-il vraiment invisible? Alors, le psalmiste, dans notre texte du jour, non seulement croit, mais en plus de cela, il s'émerveille de la personne de Dieu, dans ce qu'il perçoit de lui au travers de ses œuvres. Alors, qui est Dieu pour toi ? Est-ce celui dont les œuvres m'émerveillent ? Est-ce celui dont les œuvres m'imposent sa réalité, la réalité de sa présence? Le psaume 104, au verset 24, dit « Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel! Tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. » Alors, les versions les plus utilisées dans nos études bibliques s'expriment quasiment de la même manière et utilisent à peu près ou presque les mêmes mots. La version seconde dit « Que tes œuvres sont en grand nombre. La terre est remplie de tes biens. » Pour les versions Semeur et Darby, que tes œuvres sont nombreuses. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Et puis une autre version qui est aussi regardée en tout cas de temps en temps, c'est la version Osterwald. Elle dit, tes œuvres sont en grand nombre, la terre est pleine de tes richesses. Alors les psaumes 104 et 106, à 106 en tout cas, résument les premiers livres de la Bible. Tandis que les psaumes 105 et 106 rappellent l'histoire des patriarches et du peuple d'Israël, le psaume 104, lui, célèbre la création de Dieu. Et le psalmiste nous entraîne dans son émerveillement. Sans doute, on pourrait donner comme titre à ce psaume « La grandeur de Dieu ». Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ce psaume? On va en lire quelques passages dans un moment. Dans ce psaume, nous voyons la providence divine. Alors, providence divine, c'est l'action du Dieu créateur sur le monde. En tant que volonté qui conduit les éléments vers un but. C'est ça la providence de Dieu. Alors on y découvre la providence de Dieu, c'est-à-dire le Créateur qui a donné à l'humanité un lieu de vie en formant la terre. Alors comme d'autres psaumes, ce psaume 104, il est en forme de conversation intérieure. Mon âme bénis le Seigneur, dit le psalmiste. Et avant que ne commence sa méditation proprement dite, la magnificence de Dieu y est exaltée, comme le sera sa grandeur tout au long de ces 35 versets du psaume 104. Alors à la question « Qui est Dieu pour toi ?» Mais le psalmiste, lui, nous donne sa réponse personnelle. Il en donne plusieurs. Mais déjà au verset 1, il dit « Mon Dieu, tu es merveilleusement grand. Tu es revêtu de majesté et de magnificence. » Voilà qui est Dieu pour le psalmiste. Non seulement il est son Dieu, mais il est celui qui est grand, revêtu de majesté et de magnificence. Alors, partant d'une vue qui est assez poétique, de la magnificence, le psalmiste, lui, s'attache, je dirais, à l'acte créateur. Et il pose son regard sur la terre formée par Dieu, et qui est préparé ensuite pour être un lieu de vie pour les hommes et les êtres qu'il va créer. Et son regard se pose alors sur la vie des hommes, gardée par cette providence divine, pour aboutir à la fin du psaume, à ce qui remplit de joie son cœur, à voir toute cette création. Alors premièrement, de quel témoignage des œuvres prodigieuse de Dieu, disposons-nous. On peut aborder en premier lieu deux témoignages de cette œuvre prodigieuse. Premièrement, le témoignage de la création dans son ensemble, c'est-à-dire des œuvres nombreuses, créatrices en tout point, c'est-à-dire la terre, l'univers, la faune, la flore, les êtres humains. Et le deuxième témoignage qu'on pourra aborder, c'est la terre comme un lieu de vie. Alors je vous propose d'abord des lectures qui concernent la création dans ce texte. Et on va lire les versets 5 à 13 du psaume 104. Il établit sur la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les oiseaux s'arrêtaient sur les montagnes, elles ont fui devant ta face. Les menaces, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite sur les eaux que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. Et ensuite, on peut lire la terre comme un lieu de vie, donc c'est les versets qui suivent, à partir du verset 14 et jusqu'au verset 23. Il y a donc un partage un petit peu de ce psaume. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Donc une œuvre créatrice et un lieu de vie. Donc au point où nous en sommes un petit peu de notre lecture, après avoir porté ses regards sur ces deux aspects-là, sur ces deux témoignages, le psalmiste s'arrête un instant pour adresser à Dieu la louange qui monte en lui dans son cœur. Et c'est au verset 24 qui s'exclame « Que tes œuvres sont nombreuses !» Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes richesses. Alors dans le livre de la Genèse, à qui le psalmiste fait bien sûr référence dans son psaume, nous découvrons que toutes les œuvres de Dieu sont réalisées par le moyen de la parole. Parce que tel est le processus suivi par Dieu pour créer, c'est-à-dire il dit et la chose existe, ainsi l'œuvre de Dieu échappe aux explications rationnelles humaines. C'est certainement les interrogations de notre personnage. l'œuvre de Dieu échappe aux explications rationnelles humaines. Face à Dieu, face à l'immensité de ses œuvres, tous les efforts de l'esprit humain trouvent un écueil. L'amen, où la foi permet d'entrer dans la joie des œuvres bienfaitrices de Dieu. Quelle différence! Alors, dans ce verset 24, que faut-il entendre par « tes œuvres sont nombreuses » ? Il semble que d'autres versets de la parole prennent, je dirais, le relais un petit peu de celui-ci pour traduire et aider en tout cas à mieux cerner ce verset 24, à lui donner son relief, à lui donner son contour. Il y a par exemple le verset 9 dans Job 5. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. On peut également prendre le verset 6 du psaume 40 qui dit « Ô Éternel mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous, que de projets pour nous. » Donc en résumé, si on voulait traduire ce verset 24, des œuvres en grand nombre, mais dans le sens vraiment où on ne peut pas les compter, on ne peut pas les dénombrer. Il y a des nombres qui sont grands que l'on peut déterminer, mais là on ne peut pas. Des œuvres innombrables, des œuvres que l'on ne peut sonder, comprendre, mesurer, tant elles sont merveilleuses et incompréhensibles. Mais également des œuvres qui répondent à des projets de Dieu pour nous. Des œuvres qui répondent à des projets de Dieu pour nous. Alors, cette première partie pourrait donc se conclure en répondant à la question « Qui est Dieu pourquoi ?» de la manière suivante. Celui qui fait toutes choses belles et toutes choses bonnes pour nous. Mais ce n'est pas tout. À propos du psaume 104, nous pouvons nous rendre compte de ceci. Que toute la création est soutenue par la main de Dieu. La terre établie sur des fondements, c'est le verset 5. Des limites données, verset 9. Ce que l'on peut voir également, c'est que toutes les créatures vivent de la bonté de Dieu. C'est toi qui fais jaillir, verset 10. C'est toi qui fais pousser, verset 14. C'est toi qui fais prospérer, encore le verset 14. Le psalmiste signale également que ce qui se meut et vit dans l'étendue des mers, pour tout l'ensemble des êtres, sortis de la main du Créateur, tous ne tiennent que de lui leur existence. Alors plusieurs versets dans ce passage, mais particulièrement le verset 27, le montrent. Il compte sur toi, dit le psalmiste, il compte sur toi, tous ces êtres, pour recevoir leur nourriture au moment opportun. Alors ce verset résume et précise à lui tout seul cette situation de soutenance de tout par Dieu. Et par conséquent de dépendance de tout et de tous par Dieu. Plus près de nous, l'auteur de l'Épître aux Hébreux précise, chapitre 1, verset 3, « Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. » Alors, qui est Dieu pour toi ? Celui qui soutient toutes choses. Mais qui est Dieu pour toi? Et pour le psalmiste, c'est aussi celui qui étonne. Tes œuvres, s'exprime-t-il au verset 24. Après le premier tableau qu'il a lu, qu'il a décrit, et s'apprêtant à décrire l'autre, le second tableau que nous avons lu, il s'exprime « tes œuvres ». Un cri d'étonnement, qui est en même temps un cri d'admiration, échappe au psalmiste au moment où il se tourne vers un nouveau domaine de l'œuvre divine. Est-ce que je suis toujours étonné et en admiration devant les œuvres de Dieu? Ou bien est-ce que je suis blasé? Dieu m'étonne-t-il toujours de manière à l'admirer? D'ailleurs, plus loin, et c'est là les quelques pistes que nous a donné Yves ce matin au psaume 139, verset 14, le psalmiste dira « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Et parlant de ses œuvres admirables, « Mon âme le reconnaît bien. » Alors pour le psalmiste, Dieu est aussi celui qui crée avec sagesse. Tu as tout fait avec sagesse, nous dit ce psaume. C'est-à-dire que Dieu assigne à chacune de ses œuvres son but, son rôle dans l'ensemble de l'univers. Les œuvres de Dieu ne sont pas une création, excusez-moi l'expression, anarchique, où tout se débrouille comme il le peut. Comment ça marche, tout ça? Mais tout a été fait dans un ensemble et un équilibre harmonieux, et cela par la seule sagesse de Dieu. Et cette sagesse nous amène à considérer donc ce troisième témoignage, on en a vu deux tout à l'heure, donc la création elle-même et la terre comme un lieu de vie. Et maintenant, ce troisième témoignage, c'est le témoignage dans ce psaume de la maîtrise, de l'autorité et de la souveraineté de Dieu sur l'ensemble de ses œuvres. Dieu est celui à qui tout appartient. La terre est remplie de tes richesses, nous est-il dit à la fin de ce verset 24, ou de tout ce que tu as créé. Proprement dit, la terre est pleine de tes possessions. Ça vient du terme hébreu qui signifie ce que l'on a acquis, ce que tu as acquis. La terre est pleine de tes possessions. Les œuvres de Dieu lui appartiennent. Tout ce que Dieu a créé, il lui appartient. Alors, avons-nous pleinement réalisé cette vérité? Que tout lui appartient. Au psaume 50, au verset 10, il est dit « Tous les animaux des forêts sont à moi, dit l'Éternel. Toutes les bêtes des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Mais qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Est-ce que je réalise en conséquence ce que cela signifie pour moi en tant que créature de Dieu? Est-ce que je réalise que nos vies ou ma vie, est-ce que je réalise que nos vies lui appartiennent? Que je le veuille ou non? Il détient le pouvoir de vie et de mort. Il décide de la durée de notre vie. Dans Actes, chapitre 17 et le verset 26, nous pouvons lire « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Un autre texte dans le psaume 39, « Tu as donné à ma vie la largeur d'une main,
Et toujours, dans le psaume 139, tous mes jours sont comptés. Qui est Dieu pour toi? C'est toujours la question. Qui est Dieu pour toi? Celui dont ma vie dépend. À propos de nous, d'ailleurs, le Seigneur a dit dans Jean au chapitre 17 et au verset 9, s'adressant à son Père, il dit « Ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi, et que ce qui est à toi est à moi. » Qui est Dieu pour toi? Et là, je m'adresse à l'enfant de Dieu. Je voudrais tellement que 100% des personnes ici soient vraiment, pas simplement, elles sont des créatures de Dieu, mais des enfants de Dieu. Alors pour toi, qui es enfant de Dieu, qui est Dieu pour toi? Celui à qui j'appartiens toujours, en tant qu'œuvre spirituelle merveilleuse. Un peuple acquis, psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Quant à l'Église du Seigneur, donc, dont nous sommes une représentation ce matin, il nous est dit dans Actes 28 qu'il se l'est acquise par son propre sang. Et puis il y a également les œuvres de Dieu passées, les œuvres présentes et les œuvres à venir. Jésus dira dans Jean, mon Père est à l'œuvre jusqu'à maintenant. Et de continuer, le Seigneur est de dire, et moi aussi je suis à l'œuvre. Et également dans Philippiens 1, celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. En fait, ce que je dois retenir sans doute, c'est que l'ensemble de toutes les œuvres de Dieu pourrait être résumé par cette parole du Seigneur lui-même dans Jean 6. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Les œuvres du Père, les œuvres que le Père donne à Jésus d'accomplir, sont toutes des œuvres entièrement ordonnées vers cette œuvre principale visant notre foi. Toutes les nombreuses œuvres de Dieu, on a dit tout à l'heure, innombrables, insondables, merveilleuses, convergent toutes ou soutiennent toute cette œuvre principale du Père qui consiste à conduire les hommes vers Jésus et à susciter en eux l'adhésion de foi par laquelle ils seront sauvés. Voilà le but des œuvres de Dieu. Alors, juste pour conclure, peut-être vous me permettrez une mise en garde, celle de ne pas être oublieux. Psaume 106, verset 21, « Ils ont oublié Dieu, leur Sauveur. » Oublié ses exploits accomplis. Oubliez ces grands miracles. Oubliez ces prodiges. Que Dieu nous garde de tels oublis par la contemplation de ce qu'il a fait. Et au-delà de cette mise en garde, certainement et avec joie, une invitation. C'est celle de la fin du psaume de ce jour. Je chanterai à l'Éternel tant que je vivrai. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme bénie d'Éternel. Qui est Dieu pour toi? Celui dont toutes les œuvres consistent à faire à naître en nous la foi et la louange. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler ce que tu es, tout ce que tu es, pour tes créatures, tes créations, et pour nous tes enfants. Que je puisse réaliser à salut ce Dieu qui crée toutes choses bonnes pour nous. Qui est mu, poussé par un élan d'amour qui le pousse à créer tant d'œuvres merveilleuses pour nous, mais aussi en nous. Seigneur, nous voulons donc avec foi et avec confiance te donner nos vies. C'est peut-être le moment de le faire pour l'un ou l'autre. Mais c'est un quotidien, en tout cas pour nous, tes enfants, te louer, te reconnaître comme celui qui crée en nous des œuvres tout aussi belles. Tout vient de toi. Tout est pour toi. Tout revient à toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen.
Bonne semaine.